En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Il y a 100 ans, sur l'île de Thasos, au nord de la mer Égée, l'école française d'Athènes entamait de manière méthodique des fouilles archéologiques. Un travail de longue haleine qui n'a pas cessé depuis 1911, entrecoupé seulement par les accidents de l'histoire. Pour célébrer ce centenaire, un colloque a été organisé le 24 juin 2011 au Palais de l'Institut, sous le haut patronage de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Ce qui n'est sans doute pas fortuit, car depuis la création de l'école française d'Athènes en 1846, nombreux furent ceux de ses membres à être reçus sous la coupole. Une tradition qui perdure, en témoigne la présence d'Olivier Picard, ancien membre directeur de l'école française d'Athènes. Il a été élu à l'Académie des inscriptions et belles-lettres le 24 avril 2009. Helléniste, spécialiste de numismatique, il aborde dans la communication qui va suivre les relations de Thasos avec ses voisins par le truchement de la monnaie.
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les académiciens, chers collègues, Mesdames et Messieurs, célébrer les 100 années de fouilles de l'école à Thasos invite à dépasser le simple bilan des fouilles et des publications pour s'interroger sur le résultat de cette exploration archéologique menée par l'école et le service archéologique dans la plus grande cité de la Grèce du Nord. À l'histoire de l'art grec, Thasos a beaucoup apporté en permettant de définir un style propre à Thasos et d'analyser la notion complexe de rapport entre style et cité. L'histoire des Thasiens, celle de la langue grecque, ont été enrichies par la moisson épigraphique des fouilles. Je voudrais ici partir des monnaies pour explorer une question presque totalement délaissée par nos sources historiques, qui ont fixé leur intérêt sur Athènes et puis sur le royaume de Macédoine, les deux principaux partenaires de Thasos avant la venue de Rome. Quelle politique la cité a-t-elle menée dans sa région? Quelles furent ses ambitions face à ses voisins? Le choix des types monétaires, le volume de la production, la circulation des monnaies en dehors de la cité seront notre guide dans cette étude. D'emblée, la fondation de Thasos sort du cadre ordinaire des apoïkiés, non seulement parce qu'elle bénéficie du témoignage hors pair d'Archiloque, mais parce que la prise de possession de l'île, toute proche de la côte, donne aux colons venus de Paros des possibilités exceptionnelles. Un peu plus à l'ouest, l'embouchure du Strymon, que vous voyez sur cette carte, constituait la limite entre deux zones de colonisation grecque. Celle des cités, fondées par les Eubéens et leurs voisins, qui étaient venus d'Europe par le canal Eubéen et qui avaient essaimé sur les côtes de la Chalcidique. Et à l'est, les fondations éoliennes et ioniennes, venues d'Asie mineure en traversant les détroits. Thasos se situe au milieu, mais surtout elle occupe une position à part dans les rapports avec les Thraces, à la fois partenaire indispensable pour les échanges, mais aussi voisin que leur écrasante supériorité militaire rend très dangereux. Il y avait des Thraces dans l'île, ils disparaissent avec l'installation des Pariens. Ce n'est sûrement pas un hasard si la nouvelle ville s'installe, comme vous le voyez, à la pointe nord-est de l'île, sur un site qui n'est pas le plus favorable aux activités agricoles, car la plaine attenante est à la fois limitée en superficie et trop humide pour convenir à l'agriculture méditerranéenne. En revanche, comme vous le voyez à l'arrière-plan, c'est là que le continent est le plus proche, et la colline de l'Acropole offre un observatoire idéal juste au-dessus d'une petite anse qui constitue un port bien abrité. Vers 660, il n'y a pas encore de monnaie, mais une question importante se pose. La région est riche en minerais précieux, dont certains gisements sont déjà exploités, à une échelle encore très modeste. Dans quelle mesure les Pariens en subodoraient-ils l'importance ? Deux fragments d'Archiloque qui évoquent l'un la pouillerie de toute la Grèce accourue à Thasos et l'autre l'action du fils de Peisistratos qui conduisit à Thasos contre ses chiens de Thrace cet homme habile à faire chanter l'aulos et la lyre au prix de l'or pur. Ces deux fragments sont trop imprécis pour apporter une réponse exacte. Quoi qu'il en soit, les Thasiens, à l'abri des pressions éventuelles des Thraces, en mesure de contrôler la navigation côtière, je vous représente la situation, ces Thasiens manifestent très tôt leurs ambitions sur une partie du continent qu'ils appellent régulièrement leur épire. En témoigne la fondation de plusieurs comptoirs, dont celui de Néapolis, l'actuel Kavala. Jean Pouilloux écrivait justement qu'à la fin du VIe siècle, quand elle commence à être mieux connue, l'histoire de Thasos est déjà celle d'une métropole. Cela est bien montré par les caractéristiques de son premier monnayage, qui s'inscrit parfaitement parmi les monnayages pangéens. Le début de la monnaie dans la région est à mettre en relation avec le tribut que Darius impose à partir de 512 au peuple thrace et aux cités de la région. Un exemplaire des toutes premières émissions d'Abdère se retrouve dans le trésor de l'Apadana de Persépolis. Il n'est pas douteux que Thasos fut soumise elle aussi à cette obligation, notamment pour ses villes de l'Épire, dont les Perses ne lui auraient pas laissé autrement la possession sous le règne de Xerxès. La série à l'enlèvement de la Ménade, que vous voyez ici, utilise le même étalon, le même système comptable et les mêmes caractéristiques que les autres monnayages pangéens. Le premier groupe, qui se distingue par le dessin en V ou en Y, selon vos préférences, de la main de la Ménade, se divise, comme plusieurs autres monnayages, en deux phases. Le couple Silène-Ménade, qui constitue le type du droit, est présent dans une autre attitude sur un monnayage de la région, dont l'origine reste discutée. La version thasienne, qui représente une scène d'enlèvement, sera reprise par plusieurs peuples du Pangée, dont vous distinguez le nom de l'un d'entre eux, avec une variante, le ravisseur est un centaure au lieu d'être le Silène thasien. Les trésors montrent que ces pièces circulaient avec les autres monnayages pangéens. Vous avez ici un tableau de l'ensemble des trésors comportant des monnaies de Thasos en bleu et des autres monnayages pangéens en rouge. C'est particulièrement net pour les trésors trouvés dans l'Empire achéménide, dont l'interprétation a été discutée. On y a longtemps vu un témoignage de l'activité commerciale de Thasos, en particulier de ses ventes de vin. Mais curieusement, ces pièces ne se trouvent pas dans les régions autour de la mer Noire, où la céramique atteste la grande popularité du vin thasien. D'une manière générale, la relation entre trésor monétaire et commerce paraît contestable. L'activité commerciale des petits peuples thraces ne semble pas bien attestée. Et je pense pour ma part que ces trésors témoignent plutôt des profits réalisés dans le pays par les troupes d'occupation venues des différentes régions de l'Empire perse. Il est significatif, voici la carte de répartition de ces trésors dans le cercle rouge à l'intérieur de l'Empire perse, le plus à l'est ayant été trouvé à Kaboul. Il est significatif qu'à la fois la frappe des monnayages thraces et le transfert des monnaies des cités de la région vers l'Empire cesse vers 470-465 à la fin de la présence des dernières garnisons perses. L'importance de ces revenus donne à Thasos les moyens de se lancer dans une politique qu'Hérodote présente ainsi. Construire des bateaux longs et s'entourer d'une muraille plus forte. Flotte de guerre et remparts, ce sont les constructions auxquelles Athènes la contraint à renoncer par les deux premières clauses du traité de 463. Ce sont aussi les deux investissements, pour employer un terme moderne, effectués par Thémistocle à Athènes et déjà par Polycrate à Samos. On peut dire que ce sont les instruments dont toute puissance maritime de l'époque cherche à se doter. Pour Thasos, il s'agissait évidemment de pouvoir défendre la cité et intervenir sur le continent pour y étendre ses possessions. Darius lui ordonne d'y renoncer en 492. Mais la défaite de Xerxès lui permet de reprendre cette politique. Le retrait, même incomplet, des Perses lui permit, selon toute apparence, d'accroître son domaine, et j'ai supposé que c'est alors que Thasos franchit le col séparant Néapolis de la plaine de Philippe. En 492, Thasos avait jugé impossible de résister au grand Rouen, mais en 465, elle estima qu'elle pouvait engager la lutte contre Athènes qui contestait son emprise sur les mines. Son évaluation du rapport des forces était erronée, ce qu'elle paya fort cher. La capitulation de 463 a des effets importants sur le monnayage, comme dans toute la région où les peuples thraces cessent de frapper monnaie. Thasos garde le même type, en changeant seulement le dessin de la main de la Ménade, dont tous les doigts sont maintenant dessinés, ce qui était tout simplement une manière d'indiquer que le poids du statère avait été réduit à 8,60 g. Cette réduction faisait l'équivalent d'un didrachmatique et permettait donc de payer facilement l'indemnité de guerre et le tribut. Ces monnaies ne voyagent plus dans l'Empire perse. En revanche, elles constituent plusieurs trésors enfouis en Thrace. Alors, vous avez dans un cercle rouge les monnaies du deuxième groupe et dans un cercle bleu, plus au sud, les monnaies du groupe suivant. Cette région où l'on a trouvé le plus grand nombre de trésors du deuxième groupe, qui a été construite, la ville fortifiée de Pistyros, où la présence de Thasiens se manifeste dans les amphores à vin, dans les monnaies, dans le développement de l'architecture. La charte de Pistyros, un peu plus tard, met en évidence le rôle des marchands thasiens qui ont sur place une activité bancaire. Ils prêtent notamment de l'argent aux dynastes et aux thraces. Au contraire, les chouettes sont totalement absentes de cette région. C'est là que je placerai une importante mutation de la monnaie. Vraisemblablement, lors de la guerre du Péloponnèse, qui a dû accroître les échanges avec les Grecs, les statères thasiens sont complétés par des imitations thraces. Vous avez en dessous une série de statères thasiens et en haut à droite une imitation thrace, au même type, mais le poids, la loi, la qualité stylistique déclinent très vite. C'est désormais ce monnayage d'imitation qui est le monnayage prédominant dans le pays jusqu'à l'intervention de Philippe II de Macédoine. L'imitation est une pratique monétaire encore mal étudiée. Elle implique que l'autorité émettrice a besoin de numéraire et qu'elle en frappe pour ses dépenses, mais qu'elle n'éprouve pas le besoin de manifester son identité sur ses pièces et qu'elle préfère employer un ersatz du monnayage dominant dans la région. Trois zones monétaires se succèdent donc du nord au sud, entre l'île de Thasos, qui adapte sa monnaie à l'étalon attique pour payer tribut, et les régions purement thraces au nord, qui sont ouvertes aux entreprises thasiennes, l'Épire thasienne, qui se situe donc sur la côte, est la plus mal connue. Ce devait être un assemblage hétéroclite de territoires divers, depuis les anciens comptoirs dont certains comme Néapolis et Galepsos sont taxés à part par Athènes et s'affirment donc comme des cités, et puis d'anciens domaines miniers perses occupés après 479 comme la fameuse Rora d'Atou et des cantons dont nous ne savons rien, où, en particulier dans le massif de la Lécanée, l'attrait des métaux précieux devait attirer de nombreux chercheurs d'or et d'argent. Les revenus de la région et des mines revenaient in fine aux Athéniens, tandis que Thasos prétendait, cela nous sera confirmé, en garder la souveraineté. Mais quid de l'administration? Et peut-on prétendre dominer un territoire dont les revenus vous échappent? Quoi qu'il en soit, lorsque Thasos cherche à partir de 410 à réaffirmer son autorité sur son épire, elle rencontre de très vives résistances dont témoigne la seconde loi sur la dénonciation et elle subit des échecs, notamment face à Néapolis qui rejette avec éclat tout lien avec son ancienne métropole. La défaite d'Athènes en Sicile avait radicalement changé la situation. Les aristocrates thasiens, réinstallés au pouvoir, rompent avec Athènes en 411. La cité qui récupère ses revenus essaye de renouer avec ses ambitions d'avant 465 et elle recommence aussitôt à frapper monnaie. Celle-ci se signale par un nouveau dessin de la main de la Ménade qui est passé derrière le cou du Silène, ce qui a donné naissance au XIXe siècle à l'amusant roman de la nymphe consentante. Alors que la gesticulation de la Ménade sur les statères du premier groupe manifesterait sa résistance à la violence du Silène, je cite, « l'attitude détendue de son corps et la position de son bras droit indiqueraient qu'elle paraît accepter volontiers son sort désormais ». Fin de citation. Il faut renoncer à cette interprétation. Le dessin de la main n'est en fait que le signe utilisé par des techniciens de la monnaie pour indiquer aux hommes d'argent que la monnaie de la cité entrait dans une nouvelle phase. Le graveur, dont le style garantit l'unité de groupe, est, vous le voyez, un artiste d'une qualité exceptionnelle, qui joue de sa virtuosité, notamment dans le rendu des corps présentés parfois sur des subdivisions, de trois quarts face ou de dos. Et vous voyez à droite une représentation étonnante d'un Silène qui a le corps représenté de face, une position très difficile. De même, certaines émiectées, le nom de cette subdivision est attesté par des inscriptions, présentant le corps du Silène de trois quarts dos, témoigne d'une maîtrise tout à fait remarquable. Comme chaque fois qu'intervient une modification de la politique monétaire de la cité, la zone de circulation des monnaies change. Des émiectés sont parvenus à Pistiros, mais la grande majorité de ces pièces ont été retrouvées, oui, dans le cercle bleu que je vous présentais tout à l'heure, donc plus au sud, près de la côte, notamment à Drama, au contact de l'Épire thasienne et du pays Thrace. Un dynaste thrace du nom de Sarato, dont vous voyez le nom sur les miectés en bas à droite, c'est un Saratokos, nom thrace bien connu, a même frappé une brève émission d'imitation dont on ne connaît à vrai dire que ce seul exemplaire. Peut-être aussi convient-il de rapprocher ces pièces de mystérieuses tritées à la légende de Bergaïou, qui ont toutes les caractéristiques des tritées thasiennes à une différence près, les lettres du nom Bergaïou. Un point est sûr, ces monnaies circulent non plus assez au nord dans le territoire thrace, mais en bordure de la Pérée thasienne, et elles circulent jusque très avant dans le IVe siècle, jusque vers 360, à un moment où ces monnaies ne sont plus frappées et n'ont plus cours à Thasos, tandis que les nouvelles monnaies thasiennes ne se trouvent pas en pays thrace. Cette différence entre la situation monétaire dans l'île et sur le continent éclaire d'un jour particulier ce qui fut sans doute l'épisode le plus grave de l'histoire thasienne, la perte de son empire. Il faut revenir à la rupture avec Athènes en 411 et sur la situation politique à Thasos dans ces années. Comme à Mytilène un peu plus tôt, elle est caractérisée par la haine qui oppose la majorité de l'aristocratie pro-spartiate à un groupe de partisans d'Athènes, et elle conduit la cité à une véritable guerre civile dont elle ne sortira que par la réconciliation de 390, suivie d'un rapprochement avec Athènes. Nous ne savons pas quelle est la situation dans l'Épire après les combats qui ont marqué les échecs de la reconquête thasienne des années 410-407. Cette restauration démocratique de 390 est marquée par la création d'un nouveau monnayage, caractérisé cette fois-ci par un changement radical des types, l'adoption des images qu'une inscription de la porte de Héraclès nous appelle les dieux gardiens, Dionysos et Héraclès, un nouveau système comptable, l'introduction d'un monnayage de bronze, et toute une série de détails que je vous passe. Le domaine où circulent ces monnaies est lui aussi nouveau. Type étant nouveau, carte de circulation des monnaies est nouvelle. Sauf peut-être dans les quelques années où l'intervention de Sparte en Chalcidique a pu amener un retour des laconophiles, la politique extérieure de Thasos est alors marquée par l'alliance avec Athènes, dont la cité est en quelque sorte la base navale enneigée du Nord. L'Épire thasienne ne réapparaît dans nos sources qu'avec la sécession des Thasioi et Peirou. qui nous est connu principalement par l'abondant monnayage de bronze qu'ils ont frappé et par la mention de Diodore de Sicile, de la mainmise de Philippe II sur Crénides et la fondation de la ville de Philippe. Un témoignage direct, celui des monnaies, qui nous donne l'ethnique du groupe politique et deux brèves notes du rédacteur de la bibliothèque historique. Ces deux sources ne se contredisent pas dès lors qu'on les interprète l'une par l'autre, ce qui fait apparaître une histoire singulière. Commençons par Diodore, à qui les modernes ont donné la préférence. Dans son récit de l'année 360-359, c'est-à-dire de l'avènement de Philippe II, Diodore rapporte qu'au moment où Philippe remporte sa première victoire sur les îles Lyriens, les Thasiens, Ocisan, Tas, Omenas, Crénidas, fondaient ce qu'on appelle Crénides. L'expression est curieuse. Ce n'est pas le nom de la cité que l'historien transmet, c'est celui d'un lieu-dit. Ce sont bien des Thasiens qui établissent un centre politique, mais une fraction des Thasiens, ceux de l'Épire, nous disent les monnaies. Cette forme du nom du nouvel État implique une scission parmi les Thasiens. Ce n'est pas une apoikia, une fondation au sens archaïque du terme, sur un territoire extérieur à la cité. Celle-ci aurait d'ailleurs été bien incapable à cette époque d'annexer un nouveau territoire sur les traces. Cette sécession fut, on le sait, très rapidement un échec, et les continentaux sont obligés de faire appel à Philippe pour se protéger contre les traces. Celui-ci fonde la ville qui porte son nom, ne laissant plus aux Thasiens qu'une épire considérablement réduite. Que nous apprennent les monnaies sur ce nouveau contexte ? Un des traits du nouveau monnayage est son absence complète des pays traces. Ou inversement, l'ancien monnayage du milieu du Ve siècle continue de circuler, de susciter des imitations et d'être thésaurisé. Les pièces au type de Dionysos et d'Héraclès ne sont attestées que dans deux trésors extérieurs à Thasos, tous deux enfouis sur la côte ouest de l'Asie mineure, l'un vers 385, l'autre après 340, au milieu de pièces de cités d'Asie mineure allant de Cyzique à Rhodes en passant par Chios et Samos. Nous ne savons quasiment rien des relations entre la cité et son épire entre la restauration de la cité en 390 et la rupture de 360. Mais les monnaies donnent l'impression que la séparation entre les circulations monétaires s'était faite avant qu'intervienne le divorce politique. La sécession apparaît alors moins comme un épisode fortuit, ce qu'il est chez Diodore, que comme l'effet de divergences d'intérêts anciennes, même si des liens subsistaient encore. L'émission des nouvelles monnaies d'argent était liée, sous des formes qui restent à préciser, à la situation qui s'était créée en Égée dans les années 395-390, après renouveau d'Athènes et l'échec de Lysandre. Le bronze fournissait l'instrument pour payer les menues dépenses de la cité thasienne, notamment pour le fonctionnement démocratique de ses institutions, mais aussi pour une partie de la solde de ses guerriers. Ce monnayage ne survécut que peu de temps à la défaite d'Athènes à Chéronée. Thasos n'avait pas pris part au combat, mais le bouleversement de l'équilibre diplomatique permit à un groupe partisan d'une politique de composition avec le roi de Macédoine de prendre le pouvoir. Du temps de l'hégémonie thasienne, entre 338 et 196, date de la victoire des légions sur Philippe V, le monnayage de Thasos accuse un très net repli. L'argent n'est plus frappé et même les émissions de bronze sont irrégulières. Elles sont d'un faible volume et elles sont très hétérogènes. Le contraste entre l'abondant monnayage du IVe siècle et celui du IIe siècle d'un côté et d'autre part le caractère très modeste, haché du monnayage du II siècle incite à s'interroger sur les raisons de ce changement et sur les rapports dans l'Antiquité entre monnaie et économie. Les renseignements fournis par l'archéologie montrent que, paradoxalement, les autres indicateurs pour essayer d'évaluer le niveau de l'activité économique et de la prospérité de la cité n'accusent aucun fléchissement. Le commerce du vin se maintient à son même niveau et nous avons vu à nouveau ce matin que les programmes architecturaux de la cité se développent de façon tout à fait satisfaisante. Il y a probablement une activité ancienne qui est alors arrêtée. Il est probable que les mines d'argent sont épuisées et que Thasos n'a plus de minerais à frapper. Mais bien entendu, la production de minerais n'est pas une condition indispensable pour frapper monnaie et il faut chercher une autre interprétation. L'arrêt de la frappe de l'argent et la faiblesse du monnayage de bronze ne signifient pas que les Thasiens aient été dépourvus de monnaie. Il ne fait aucun doute, même si nous n'en avons aucun témoignage archéologique, que pour le commerce du vin et pour la part de leur fortune en capitaux, les Thasiens utilisaient la monnaie panhellénique du temps, au type d'Alexandre ou de Lysimaque. La cité elle-même continue naturellement à percevoir en argent les taxes sur le commerce et toutes les taxes qu'elle perçoit, et elle a parallèlement des dépenses en argent, ne serait-ce que pour financer la venue des artistes dans les fêtes religieuses. Ça n'est donc pas une absence de monnaie, ça n'est donc pas non plus le signe d'une pauvreté, et nous pouvons donc parler d'un refus politique qui s'explique, je crois, par la relation que les anciens établissaient naturellement entre monnaie et puissance militaire. Un peu plus tard, voulant empêcher la renaissance de la puissance militaire de la Macédoine, Rome lui interdira d'exploiter ses mines de métaux précieux et donc de disposer de minerais en abondance pour son monnayage. Par un raisonnement similaire, c'est sans doute parce qu'elle ne voulait pas paraître un danger potentiel face à la Macédoine que Thasos, me semble-t-il, a renoncé à la monnaie d'argent. Inversement, la politique monétaire de Thasos, à partir du moment où se dessine la troisième guerre de Macédoine, un peu avant 170, me paraît fournir la contre-épreuve de ce raisonnement. C'est à ce moment-là que les trésors permettent de placer la création d'un nouveau monnayage utilisant les types rajeunis des dieux gardiens, vous voyez un Dionysos et un Héraclès plus jeunes que deux siècles auparavant. Les premières émissions sont peu nombreuses, le volume des frappes en revanche s'accroît considérablement à partir des années 120-115 pour financer les guerres contre les Thraces, mais j'ai déjà eu l'occasion d'en entretenir notre académie et je ne recommencerai pas. Dans ce bilan de 100 années de découvertes numismatiques sur le site de Thasos, et pour moi de 40 années de recherche au musée de Thasos, je vous ai caché toute l'infrastructure qui a soutenu ces quelques réflexions. Je vous ai eu le nettoyage, le classement des quelques 25 000 monnaies trouvées dans les fouilles, l'identification des coins, les diagrammes de poids. Et je ne vous ai donné que de trop rares indications sur l'identification, la datation des émissions, des groupes, des séries, etc. J'ai passé sous silence toutes les observations sur les techniques monétaires, l'origine des métaux, les pratiques financières. Je n'ai gardé de la monnaie que ce qui me menait à la cité des Thasiens, à la manière dont ceux-ci ont construit leur identité, leur politique, en particulier, je pense que ça a été le facteur qui a dirigé leur politique monétaire, leurs ambitions sur leur empire, donc leur nomisma. Et celui-ci, qui est bien le fruit de décisions politiques, m'a fait découvrir la matière d'un récit qu'aucun historien antique n'avait rédigé.
Vous venez d'écouter Olivier Picard de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Vous pouvez entendre, si vous le voulez, la communication de son confrère et collègue Dominique Mullier qui dresse le bilan d'un siècle de fouilles de l'école française d'Athènes à Thasos. Sachez que vous pourrez lire l'intégralité de ces communications dans les comptes rendus de l'Académie des inscriptions et belles-lettres à paraître en 2012.